podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro, très content de vous retrouver au son de Gunsmoke au NES, ça date de jadis, un bon vieux jeu de Capcom, j'ai l'impression. Donc, bienvenue pour cette nouvelle édition de, comment ça s'appelle déjà, Terrain Basé, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. On est très content d'avoir un invité, ancien employé du coup à Sherbrooke, t'avais dit c'était la coquille, là?
Le griffon.
Le griffon, c'est la même affaire.
Dans le vieux temps.
Mesdames et messieurs, Johnny Machine lui-même, c'est Yanis qui est avec nous autres. Salut, man.
Salut.
Hey, t'es capoté, hein? Pour sa première fois à Terrain Basique, on a aussi Marc-Antoine Desragon qui commence à être un habitué. Salut, Marc-Antoine.
Salut, ça va bien?
Ben, moi, chaque jour est un cadeau, hein? Puis, gars, tu vois, j'ai pas mis ça. Les Honey Crisp, c'est mes pommes préférées avec les Old Granny Smith, là, les vertes. Et on finit le squad pour ce soir avec Jason Keys, père de famille, joueur de Magic et porteur de lunettes et de sagesse. Hein? Salut, Jason.
Bien le bonjour.
Dis-moi quelque chose de sage.
Ne soyez pas Manascrew.
C'est ma phrase à moi. Fait que là, c'est quoi, toi, tu voulais commencer le show d'aujourd'hui qui va être surtout consacré à votre tournoi de Magic Tantrique, hein, la communauté boréale. Si on se souvient bien, il y avait comme un beef qui était monté entre ceux du Québec puis le reste du monde. Hein, c'était un petit peu nous contre eux. Vas-y, Jason, parle-moi de ça.
Ben, avant de sauter là-dessus, je voulais parler un peu des prix des vieilles cartes qui se sont emballées dans le dernier mois. Est-ce que vous voyez mon écran?
On voit très bien ton écran.
Ouais.
Écoute, regardez là, la Wheel of Fortune Revise. Elle est maintenant montée à autour de 900$. 598. T'sais comme, c'est crazy. Là. Cette carte-là valait 200$ il y a un mois. Puis, dans le même genre, le Vesuvian de Paul Ganger Revise est rendu 75$. Puis, alors que c'était une carte de 30$ il n'y a pas si longtemps, le Bad Moon de Revise est maintenant rendu 20$.
C'est
sans
bon.
Aucune. On dirait que les gens, pour cash in leur Bitcoin, se sont rués pour acheter des cartes Magic. Emballer les prix des cartes.
Ouais, mais...
Donc, si vous avez des vieilles cartes à la maison, là, checkez vos prix. Tommy a été surpris l'autre jour quand il avait dit que...
Mais ça marche par ça marche par tendance. Là,
ouais. Tu vois, c'est le Revise, ces temps-ci.
C'est ça, ces temps-ci, le Revise. Puis là, tu vois le Fort qui commence à monter. Il n'y a pas longtemps, tu avais toutes les classes d'avant. Il y a 3 mois environ, 3-4 mois, c'était les 7th Edition Foil.
Oui.
Parce que 7th Edition, c'est White Border, mais les Foils sont Black Border.
Oui.
Fait que là, ça fait des cartes spéciales. Tu avais des communes, genre des Wall of Fire, 7th Edition Foil qui étaient comme grippés à 10$. Genre.
Le Foil, j'en ai acheté une 20$ l'année passée, puis est rendu 100$. C'est crazy.
Ouais, c'est ça. Wow. Fait que ça y va, tu vois que les communautés, ils vont vraiment par vagues.
Pensez-vous que c'est vous autres qui avez commencé cette mode-là? C'est-tu quelque chose?
Non, je pense pas qu'on a assez d'impact.
Okay.
Je pense que c'est le Bitcoin. Les gens ont voulu cash leur Bitcoin. C'est l'incertitude de la pandémie. Les gens cherchent un truc pour spéculer.
Ah,
puis là, c'est la mode. Là. On achète des cartes Magic.
Ouais.
En fait, ça nous nuit à nous, les joueurs de old school, parce que ça empêche... Tu sais, à ce temps, on permet les proxys, là, mais je veux dire, c'est dans des tournois où on ne permet pas les proxys ou quelqu'un peut vendre un deck avec des vraies cartes, rendu difficile. Là, parce que avant, tu pouvais te faire un deck de Revise à 50$. Puis là, c'est plus possible.
Je pense que j'ai 2 balances de Revised. Ça doit être quelque chose, me semble. C'est tellement puissant.
Oui, ça vaut cher à cette heure.
J'ai failli.
Donc, c'est ça. C'est juste mon point, c'était de checker vos flûtes.
Toi, Yanis, es-tu encore collectionneur un petit peu de ça?
Du tout. Malheureusement. J'ai tout vendu dans, je te dirais, 2002 peut-être. 2001, 2002.
Ah ouais, hein,
non, mon set de 40 dual land avec mon time twister, puis là ben, je regarde les free astars puis je pleure.
Ça serait un chalet 8 étages.
Ouais, c'est ça.
Ben, moi, c'est
un condo à Hochelaga.
J'en avais 46 des dual land quand que j'ai vendu mes cartes pour $150 en 1996. Oui, c'est pas la même
chose. À Sherbrooke, au Joubec, c'est un magasin de jeux là, au Carrefour de l'Estrie. Charlotte à Carrefour de l'Estrie. Eux autres, ils vendaient des paquets de Revised français Black Border. Ça, c'était cool. Fait qu'on, la plupart de mes dual land étaient comme ça aussi. C'était la grosse...
Oh shit, hein? Revised en français Black Border, Johnny.
Black Border.
Tu nous amènes dans une époque lointaine de machines à café et de réveillage de passé. Est-ce que ça termine l'aventure des cartes que tu voulais commencer?
Oui, écoute, tu parles du passé, mais pour moi, t'es Marc-Antoine, c'est samedi passé.
Ben oui, vous étiez saucé dedans. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est parce que tu veux nous ouvrir.
Oui, le Boreal Community Cup, vous voyez l'écran?
Oui, on voit.
Oui, OK. Le Boreal Community Cup, c'était un tournoi organisé par notre ami Patrick Burt, qu'on avait reçu à l'émission.
Très sympathique, d'ailleurs.
Fort sympathique. Il s'est mis à la tâche. Dans le fond, c'est chaque ville canadienne a monté une équipe pour compétitionner dans le tournoi. Et l'équipe dont le tournoi à l'entrée coûtait 15$, et l'équipe qui gagnait le tournoi récoltait l'argent pour un organisme de charité de sa ville. Donc, il y avait le Québec City Brew Crew, le Montreal Tundra Wolf, les Toronto GeoCities of Brass, Ottawa Capital KO, les Grizzly Bear de Vancouver, les Scavenger Fold de Oshawa, et tous les Européens et Américains, eux, ils ont fait leur propre équipe qui était les Outsiders, représentés par Bug Rats. Donc, chaque club avait sa carte fétiche, que si tu jouais avec cette carte-là, ça donnait des points à ton équipe pour gagner le tournoi. C'est mais Montréal là, qui a remporté le tournoi, notamment grâce à l'aide de Marc-Antoine Desragon, qui a fait, Marc-Antoine, son premier tournoi, il a fait 4-1, t'as fait? 4...
J'ai fait 5-3 une défaite.
Tabarouette, hein?
5-1, ouais. Wow. Son c'est un peu premier doux, shot, ils connaissaient pas la méta, là.
Si on se souvient du Marc-Antoine Desragon, il avait comme fait plein de drafts de Terros, fait que il est jeune, là. C'est des nouvelles dynamiques, là. Il est pas retourné à la source, lui, là. Il a découvert.
Du nouveau avec du vieux.
Check ça à la face de taquin encore. Là.
Les seules fois que j'avais joué avec ce genre de carte-là, c'était en Vintage Q, mettons.
Bon, ben, tu vois. Mais là, je regarde ça, là. La liste, c'est le Brassman, c'est de loin la meilleure des cartes qui est proposée.
Ben, moi, je pense que c'est le Grizzly Beer, là, parce que c'est le seul qui n'a pas de drawback. le Québec City Brew Crew, ils ont vu le Goblin Architect que tu peux. Je pense que c'est, tu sacrifies un artefact pour piger une carte, mais il faut que tu flippes un coin. Le Tundra Wolf de Montréal, c'est un first strike, c'est assez basic. Le Brassman de Toronto, c'est un 1-3 pour un colorless qu'il faut que tu payes 1 pour l'entaper. Nous, à Ottawa, on était pogné avec le Orkish Captain. Je vais en parler dans 5 secondes. Puis la gang de Outsider, là, on a fait beaucoup de decks de rats là, avec le Bug Rat qui peut pas être bloqué par des walls, ce qui est un peu inutile. Montréal a remporté le tournoi, ce qui a ramassé, on voit le chèque à l'écran, $1,905 remis à Jeunesse au Soleil.
Oh, bravo, ça!
J'en ai même. Fait que c'était une bonne petite... j'aimais beaucoup l'aspect que c'était... Tu sais, c'était très compétitif parce que tu voulais que ta ville ramasse le mouton, tu sais.
Ouais, ben c'est une affaire d'honneur aussi, là. J'ai vu des fires, moi, là. Des affaires comme le monde contre le Canada, puis je veux dire...
oui,
une fois de temps en temps ailleurs qu'au hockey.
Les Européens puis les Américains sont mis dans la même équipe, puis ils avaient dit, on va sortir l'argent du Canada. Ils voulaient donner le cash à un ONG qui s'appelle True North Aid, mais ils l'ont pas eu. Fait que c'est ça, dans le tournoi, Marc-Antoine a fini 6e, moi j'ai fini 9e. Pour ma part, moi, j'étais pogné là, avec l'équipe d'Ottawa, le Orkish Captain. Je voulais, vu qu'on était moins de joueurs, il fallait que je compense un peu. Fait que j'ai mis la carte de notre club dans mon deck. Orkish Captain, c'est 1-1 pour un orc rouge de Fallen Empire. Tu payes un colorless, tu choisis un orc, tu flippes un coin. Si ça tombe du bord que t'as collé, il est +2, +0. Si ça tombe pas du bord que t'as collé, l'orc meurt. Moins 0
pour
lui. Il y a quand même pas mal d'orcs. Genre, il y a des 1-3 puis des 2-3, là, les Orkish Cannoneers.
Ouais, mais écoute 3 puis c'est vraiment pas bon.
Ben oui,
mon plan au début.
C'est bon, je t'ai dit que c'est peut-être pas nécessairement l'orc d'un coup. Puis tu as un bypass pour monter ton orc à 5-1.
Au si au moins c'était moins 2, moins 0, tu sais pas, moins 0, moins 2.
C'est ça, ça n'a pas de prise de bon. Ça.
Mon plan au début, c'était de faire un deck d'orc mono-rouge avec des Blood Moon pour scraper l'élan des decks multicolores. Mais c'était vraiment de la merde. Fait que ce que j'ai fait à la place, je me suis dit Orkish Capitaine, c'est un capitaine de bateau. Oh. Fait que je me suis rappelé que dans le bleu, il y a les.
Le bateau pirate, le Ghost Ship aussi.
Il y a le Pirate Ship. Donc, on voit mon deck à l'écran. Ça, c'est le deck que j'ai utilisé. Vous voyez au centre les trois Orkish Captains que j'ai déguisés. J'ai découpé des orques de Ixalan, les orques pirates de Ixalan. Je les ai collés sur mes Orkish Captains.
Hey, hein.
J'ai mis 2 Pirate Ship, 3 Ghost Ship. Donc, j'avais 5 bateaux.
Hey, les
et ships, c'est surtout. Bon, hein?
Le 2-4 qui régénère, là.
Pourquoi? Oui, Ghost Ship, je vais en parler. J'ai eu des très bons succès avec ça. Tu vas voir. C'est un deck de contrôle. Je jouais 4 Prodigal Sorcerer que j'avais collé les gobelins là, qui load les canons. Là, fait que c'était concept. Prodigal Sorcerer, c'est 2 qu'on le laisse un bleu pour un 1-1. Tu peux taper pour faire un dégât. On va en parler plus loin, vous allez voir. Mais surtout, mon deck, c'était surtout du Counterspell. J'avais 4 Counterspell, 2 Spell Blast, 1 Mana Drain.
Quelle surprise, Jason!
je jouais parce qu'on jouait 4 Street Mines, fait que c'est très faible, c'est très. Le mana base est très fragile, fait que je jouais 26 lands parce que je voulais être sûr de mes Ghost Ship là, sont 2 colorless, 2 bleus. Pour un 2-4, tu peux les régénérer pour 3 bleus. Écoute, j'ai mon score a été au rendez-vous. Là. J'ai fait 4-2
attends un petit peu. J'aimerais ça, Jason, à ce moment-ci, avoir un commentaire de Yanis sur ce que tu es en train de voir. C'est quelque chose
c'est beau.
Qui stimule ton... Ouais, parle-moi.
Ben ouais, là, moi, je vois les... je pense que je vois des Mésovites, une librairie d'Alexandria, un petit Lotus de bien caché, tu sais.
3
les
Mésovites.
Les 10 dans le haut à gauche. C'est beau. Ça remémore beaucoup de souvenirs.
Une carte que je jouais pas à l'époque, mais que j'ai découvert en fin de semaine. Parce que moi, c'est ce que j'aime, le format old school, c'est que je découvre des affaires que j'ai tout le temps pris pour acquis pourtant. Le Spell Blast, qui est un counterspell X bleu.
Ouais.
Ça, pour protéger dans un deck où tu veux protéger tes Prodigal Sorcerer et tes bateaux, ou tes gros monstres, là, des gros djinns, c'est vraiment fort. Parce que dans le fond, tour 1 avec l'autre, il met un Mox. Toi, tu payes juste un bleu, tu le counterspell. Puis souvent, les gens vont regarder si tu as 2 islands on tap. Puis ils vont faire attention de caster parce qu'ils se disent, ah, t'as peut-être un counterspell. Mais le spell blast, là, souvent, j'avais genre un Mishra Factory et un island. Puis là, il faisait, mettons, un Swords to Plowshare. Puis paf, je le prenais par surprise avec le spell blast. J'ai fait sacrer pas mal de monde avec ce spell-là pendant le tournoi.
Ah, étant donné que les 2 plus gros removals, c'est Swords puis Bolt, fait que...
Ouais, Swords puis Bolt, c'est les... Tu sais, ça coûte 1.
Ça fait que t'es catch les 2.
Puis le plus gros spell que j'ai counterspellé avec un spell blast, c'est un Zuzam Jin au tour 5, là. J'avais gardé mes lames.
Sacrement. Check c'est la face de Jason Fréchier, là. T'as même pas été capable de gagner avec ça. T'as fait battre. Par Marc-Antoine.
4-2. J'ai fini 9e sur
60. Non, malheureusement, on n'a pas joué contre.
70 joueurs.
Ok, ouais. Écoute.
C'est un score respectable.
Fait que
70 joueurs, c'est quand même un gros tournoi. Là, ouais.
C'est un très gros tournoi. 70 joueurs. Là. Moi, c'est ce que je voulais amener le point. Pas le point final, là, mais je veux dire, un truc que j'ai aimé, c'est la participation. Puis on voit que les gens, ils ont soif de jouer à Magic Carton. Pas nécessairement old school, là, mais je veux dire, de jouer. Tu sais, on jouait par webcam. 70 joueurs, c'est beaucoup de monde. Puis Marc-Antoine, t'as mentionné là, que t'avais beaucoup aimé ton expérience, notamment sur le mood du tournoi. Là,
c'est une belle communauté en général. Là, tu vois, il n'y a pas de genre de jeunes fraîchiers ou de monde qui se crée trop. T'sais. C'était beaucoup comme une game sur deux, j'entendais des enfants en arrière parce que c'était un père qui était en train de jouer. Puis c'était vraiment très, très... amical, puis tu voyais que le monde il y avait comme Tommy disait tantôt là, tu gagnais un peu pour l'honneur, mais c'était pas try hard mettons là, c'était pas le monde était pas trop sérieux, ben dans le sens qu'il était chill là.
Colin, ben écoute, tant mieux si ça réussit. Tu nous parles-tu un petit peu de ton deck à toi, Marc-Antoine?
Moi, j'avais un deck contrôle.
Je vais le mettre à l'écran un instant.
Ouais. Assez classique. Là.
Le deck à Marc-Antoine. Marc-Antoine, souvent, là, il restait juste 3 points de vie.
Fait que tu vois, moi, je jouais 4 sur Splashare, 4 Counterspell, 3 Power Sync, tout le Power 9, 4 Descension, 3 Wrath of God, Mind Twist. Aucune créature.
Aucune créature.
Aucune créature. Fait que je gagnais avec Mimishra's Factory puis des grosses Fireballs. Je pense que j'ai fait quelque chose comme 8 ou 9 Fireballs avec X égale plus qu'à 10 dans le tournoi.
Oh.
Puis l'affaire que je faisais gros et tout, c'est que j'avais mis 4 Serum Jewel dans mon sideboard. Comme ça, après la première game, quand le monde il avait vu que je jouais aucune créature puis qu'il enlevait leur removal, moi je rentrais les anges. Puis j'avais.
C'est ça que tu es en train de me dire. Il y en a, ils ont dit fais attention à lui, le petit Vera de Montréal, parce qu'il n'y a aucune créature dans son deck, puis il va juste s'attaquer avec des estitos de Mishra. Fait que là, toi, après ça, t'avais tes anges pour lui surprendre.
Mais c'est ça, mais tu choques le mental. Tu sais, toute la première game, ils sont restés pognés avec leur terreur, puis leur sword, puis leur bolt dans le où ils ont bolté ta face, puis tu sais, ça faisait pas ce qu'ils voulaient que ça fasse. Fait que là, il n'y a pas de ça. La deuxième game, ils te sortent ça. Puis, c'est quand même cool. L'affaire que je peux dire, ma dernière game, je jouais un mirror match contre un autre deck contrôle. J'ai gagné 1-0. Puis, tu sais, c'était genre le classique contrôle, le draw go. Fait qu'on drop une laine. Puis, toutes les deux, on savait qu'on avait 1 million de counterspell dans les mains. Fait que, les deux, on est à 16 de vie. Je bait un counterspell en jouant un Serum Jewel. Puis, il me fait un power sync pour X égale 12. Fait qu'il faut que je paye 12 de mana pour le counter. Puis l'affaire avec Power Sync, c'est que.
Faut que tu prennes tout ton mana de toutes tes.
C'est ça, faut que tu prennes tout ton mana. Fait que moi, on est first main face. Fait que je fais. Comment ça s'appelle déjà, là, l'autre counterspell, là, le Mana Drain. Fait que je Mana Drain son Power Sync.
Oh!
Ta Mana Drain un Power Sync?
De 12. Ouais,
je Mana Drain son Power Sync. Il counterspell mon Mana Drain. Je counterspell son counterspell. Puis là, il me reste quelque chose comme 4 mana d'ouvert. Je passe à ma deuxième main phase. Lui, il est à part. Je mets les 13 mana colorless dans mon mana pool de mon mana drain, puis je le fireball pour 16.
Quand tu nous racontes ça, de même, il n'y a personne qui te donne une tape sur les doigts pendant ce temps-là.
Le gars, il m'a montré sa main, puis lui, il avait le fireball dans ses mains. Fait que c'est ça. Lui, il voulait me power sync pour que je tape out, puis qu'il me fireball à mon tour. J'ai pu aller à ma deuxième main phase. Puis si j'avais pas eu la mana du mana drain, j'aurais pas eu finir, j'aurais été à porte, puis lui, il m'aurait fait un ball à son tour. Fait que je pense que c'était tout.
Fait que c'était tight en sa prestige. Ouais. C'est le vieux Magic.
Comment t'as trouvé
avant d'aller plus loin, on vient de faire la présentation du deck. Je vais avoir le commentaire de Yanis là-dessus. Là.
Ben, qu'est-ce que je dis? Le Power 9, il est là tout. Tu sais, ça, là, c'est quasiment le prix d'une maison, ce que je regarde là.
Non, mais c'est. On permet les proxys dans le tournoi, John.
OK. Mais non, mais tu sais, la stratégie de Mishra, je l'aime beaucoup, là. Tu sais, présentement, moi, je suis un joueur de standard. Je joue sur Arena tous les jours uniquement, tu sais. Puis, t'sais, les lands qui attaquent, c'est une stratégie de beaucoup de decks, là, dans les nouvelles séries, là, tu sais. Puis, à chaque fois que j'utilise un Crawling Barrens ou le nouveau Faceless Heaven, tu penses à Mishra tout le temps, t'sais. Parce que c'est Mishra qui commence, t'sais.
Effectivement. Puis Mishra, c'est comme le frère méchant de Urza qui est super gentil. On s'en rappellera. moi, je suis pas honnête. Mais là, écoute, Yanis, c'est le fun d'avoir ton son de cloche. C'est-tu quelque chose qui pourrait te tenter à participer la prochaine fois, un tournoi comme ça?
C'est sûr que avec les proxys, peut-être.
Il n'y a aucune Power 9 que tu vois à l'écran qui n'est pas un proxy, là.
OK. Ouais, c'est ça, parce que. Mais sinon, c'est sûr que c'est le fun, surtout bloc Ice Age comme ça. Là, moi, je pense que le dernier gros tournoi que je pense c'est 2005 peut-être, puis c'était le deck de Necro Donate.
OK.
Puis c'est la dernière fois que j'ai eu vraiment gros du fun en tournoi, mettons.
Il y a beaucoup de formats différents
en webcam. Ça s'appelait Extended, je pense, dans le temps, mais là, à ce stade, j'ai pas vu les formats.
Excuse-moi. Pour Extended, tu checkeras ça. Johan, hein, c'est ça ton nom?
Yanis.
Tu checkeras Pré-Moderne. Webcam, là. Eux, ils font des tournois monthly, puis c'est de 4e édition jusqu'à Scourge. Puis okay. Ça va ressembler beaucoup à l'époque que tu jouais à Magic.
C'était d'accord.
Je sais que ça.
C'était l'époque où, parce qu'Acromo était dans le graveyard, tu pouvais faire un Animate Dead dessus parce que sa protection contre le noir marchait pas. Mais là, quand ça arrivait en jeu, sa protection pétait l'enchantement de Animate Dead puis elle restait en jeu parce que la condition marchait pas pour blablabla, le petit crosse de règle de marde. Qui ou Acromo, man? Elle m'a tellement accroché des soirées, cette douche-là. Mais là, tu voulais parler à Marc-Antoine pour avoir un feedback. Là.
Moi, j'ai une question, Marc-Antoine. Moi, je me rappelle que t'as... juste pour vous donner une idée à quel point on préparait ce tournoi-là, là, moi et Marc-Antoine, on a passé comme une semaine et demie à faire du feedback.
À sa place, puis à
quelle carte on devrait mettre, c'est quoi le
meilleur. À recrafter, là.
Okay, ouais.
À faire des théories, puis ça. Puis je me rappelle, le Giant Diatome, t'étais sceptique, ça, c'est un artefact 4 colorless. Tu payes 4 colorless pour piger une carte.
Ouais, c'est comme un mal nécessaire du format, là, mais genre, c'est comme dans les standards d'aujourd'hui, ça n'a pas l'air bon, mais tu sais, pour les decks de l'époque,
en fait, t'avais pas le
mais
choix.
C'est le removal coûte tellement pas cher que ça balance le coût de ça, tu sais.
Ouais.
C'est un peu comme ton Teferi, genre du contrôle moderne, tu sais.
Oui. Puis moi, ce que j'aime, le Giant Diatome, c'est que tu gardes pendant le tour de. Moi, j'en avais un dans mon deck aussi. C'est que pendant le tour de l'autre, tu sais, mettons, t'as ton Counterspell dans la main, là, l'autre, il sait, puis t'as ton Giant Diatome sur le board. Fait que là, il va hésiter. Mettons, il joue pas de spell, il passe le tour. Ben, à la fin de son tour, tu peux piger ta carte avec ton Giant Diatome. Plus que la game avance, plus que tu le domines. Là, pis,
je pense qu'à cette époque-là, si tu veux être full in saveur, par contre, il faut dire avant mon tour. Faut pas dire à la fin de ton tour.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
C'est un peu pour ça aussi que j'avais enlevé comme ces decks-là à l'origine, les decks, les listes qui avaient comme des regrowth, puis il y avait des. Tu sais, des fois, il y a des lifelink, des choses comme ça. Il y a plus de trucs à sorcery speed. Moi, j'avais enlevé ça pour rentrer les power sync. Ça, c'est pas, ça se joue pas sur les versions stock.
Question toute ta version maison, là, c'est le power sync. Là. C'est ton tech.
Ouais, c'est pas mal ça que genre, le monde en l'habitude, il jouait pas autant dans le classique de deck. Là, parce que je le jouais encore plus à instant speed. Là.
Ben. Ça a marché?
Ouais, ça marchait super bien parce que ça a fait exactement ce que je me disais. Le fait que je joue plus Instant Speed, plus de Counterspell, faisait que j'avais le edge contre les autres de contrôle. J'avais plus de Counterspell, c'est souvent ça qui. Puis c'est moi qui avais le contrôle aussi du momentum à cause de ça, tu sais, quand tu peux jouer en Instant. Puis les Wrath of God ont fait exactement ce que je m'attendais parce que, genre, tout ce que j'ai vu, c'est genre des djinns ou des trolls ou des White Knights. Fait que ça ramassait, ça faisait ce que ça avait à faire, là.
Et voilà. Puis moi, je me souviens à cette époque-là, pour se faire un nouveau deck, là, ce qu'il fallait, c'était se trouver un Sol Ring puis deux JM Détonne. Puis là, tu pouvais te faire un nouveau deck de base, mais ça prenait ces trois artefacts-là dans tous les decks.
C'est vrai que le Sol Ring, c'était auto-include dans n'importe quel deck que tu faisais. C'était un peu comme ta carte de membre de Magic, ça te prenait ton Sol Ring.
Officiellement, me faire un nouveau deck, je disais, ça me coûte 10$ plus des cartes qui traînent dans mes boîtes. Là, je m'achetais un nouveau Sol Ring, puis là, je me faisais un nouveau deck. Là, ça
fit avec encore aujourd'hui, tu sais. Mettons, là, aujourd'hui, avec la dynamique de Commander, c'est ça. Là, Sol Ring, c'est la carte qui définit le plus le format, puis tout le monde a 10 fois pour l'avoir dans chacun de ses decks Commander. Là.
Ben, à cette époque-là, on avait des discussions à savoir c'est quelle la meilleure entre le Sol Ring et le Black Lotus. Puis on était tous d'accord pour dire que c'était le Sol Ring.
Mais je pense, Jason, tu peux confirmer, mais je pense que dans le format old school, mettons le Sol Ring, dans beaucoup de games, ça va être une meilleure carte que Black Lotus.
Ben oui, parce que moi j'ai tout le temps Sol Ring, là, puis Sol Ring Tour 1, en fin de semaine, là, il y a plein de games que si j'étais capable de sortir mon Sol Ring ou Tour 1, ça faisait des grosses différences parce que j'avais tout le temps deux colorless de disponibles.
Parce que à moins que tu turbo-hâtes, admettons, un gros mind twist, ça peut être un des seuls cas que j'ai vu que la Black Lotus aura un gros edge, mais les tournois, le format est comme pas assez explosif, tu sais, c'est pas comme Vintage aujourd'hui que genre c'est pas assez explosif, fait que ça prend pas le 2 de mana colorless par tour a comme plus de value que le 3 d'un coup.
Oh, absolument, absolument. Pour les Power Sync, mes Spell Blast, caster un Prodigal Sorcerer tour 2. Un Ghost Ship tour 3, puis t'as plein d'affaires, un Zuzam Jin tour 3 aussi, le Sol Ring fait la job en masse.
C'était la première fois que je jouais avec du Mana Burn aussi.
Ouais, puis comment t'as trouvé ça, le Mana Burn?
J'estimais ça, c'est le très le fun. C'est beaucoup plus important que je pensais. Quand j'imaginais le Mana Burn, avant de l'expérimenter, je pensais que ça allait être juste comme, ouais, tu sais, c'est bon, là, c'est un détail. Mais il faut vraiment que tu work around. Il y a plein de scénarios, là, genre, tu fais péter ton Lotus, est-ce que je le sac en réponse pour me garder de la mana? Ma deuxième mana de mon Solar Ring qui passe pas, mettons, sur le Modus Enchant. Puis le petit dommage, vu que je joue avec des City of Brass, puis des fois, m'emmener.
Ça baisse vite, hein? Ça baisse vite. Moi, c'est pour ça que je jouais pas de Serendi Befrit en fin de semaine. Ça fait baisser trop vite. Puis j'ai mis, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis deux de mes matchs et un match de Marc-Antoine sur notre YouTube. Ils sont identifiés Boreal Community Cup. Donc, vous irez voir ça. Puis vous allez voir là, comment les points de vie descendent vite. Il y a un match où Marc-Antoine Dragon est à 3 points de vie. Puis l'adversaire met des Triskelions. Le Triskelion, c'est l'ancêtre de Walking Ballista. Puis il n'a jamais réussi à le mettre sur le battlefield. Marc-Antoine est juste counter spell. Il a 3 vies, tu sais. Puis l'autre est à 20. Puis il est vraiment comme.
Ça mérite une autre tape, c'est quoi, ça?
Voyons. Cette game-là, ce qui est intéressant et tout, c'est que l'autre gars, il a un Suchi.
Oui.
Mais, puis moi, j'ai un Serin Joel, mais il ne peut jamais m'attaquer parce qu'il a Animate Dead son Suchi. Fait que c'est une 3-4. Fait que toute la game est pognée. Au lieu d'être 4-4. Fait que toute la game est pognée sur le board. Puis elle reste là, puis c'est juste le petit moins 1, moins 0 qui fait toute la différence. Ouais, sinon, moi, j'aurais été obligé de bloquer avec mon ange. Puis
c'est plus chien qu'on pense, ce moins 1, moins 0. Là, c'est quoi un Suchi? Je me rappelle pas.
C'est un Suchi, c'est 4 colorless pour un 4-4. Ça vient d'Antiquities. C'est un artefact créature. Puis s'il meurt, il te fait 4 mana. Le trick d'un Suchi, c'est que tu le tues. Mettons ton adversaire un Suchi. Si tu réussis à le tuer pendant ton tour, ben l'autre, il va faire 4 de mana burn. Fait que c'est beaucoup, là.
Ben oui.
C'est où tu le fais dans le combat step ou quelque chose, genre.
Faut que le monde mette ça dans le deck.
Ben, c'est que c'est fort, c'est des stratégies de robot.
Ah, OK.
Ouais, pis tu peux le mettre avec ton Mishra Factory. C'est que le gars m'expliquait, tu peux sync ta mana dans ta factory. Ouais. Comme ça, tu mana burn pas.
OK. Ouais. Ça passe, Marc-Antoine. Ça passe.
De mon expérience la fin de semaine.
On arrive-tu à la carte de la semaine? Là? Je pense que oui, on est rendu là. Hein? La carte de la semaine, une présentation de notre magasin affilié. On salue l'Abyss au 4490 Jean Talon Est. Ça va plutôt être au www.labyss.com que vous allez les trouver ces temps-ci. Donc, on écoute le beat à bone et on s'en va vers la carte de la semaine. Je pense qu'on en a déjà parlé de celle-là.
Tommy, tu m'en avais souvent parlé de Prodigal Sorcerer.
Ben oui.
Moi, je me rappelle les années 90, je trouvais ça cave. J'étais comme, c'est un 1-1 que tu tapes pour faire un dégât.
Où tu veux, man. Quand tu veux.
Où tu veux. Mais je me disais, ça va me prendre 20 tours pour tuer l'autre. J'avais pas réalisé à quel point c'était fort. Je l'ai réalisé en fin de semaine. Prodigal Sorcerer, 2 colorless, un bleu, pour un, ça vient de Alpha, un 1-1, tu peux la taper pour faire un dégât, elle a été réimprimée des milliers de fois dans plein d'éditions, c'est vraiment fort, écoute, t'as plein d'interactions intéressantes que tu peux faire avec, tu la mets en jeu, t'attends pendant le tour de l'autre, mettons que tu fais rien pendant tout, là, ça c'est le worst case scénario, à la fin du tour de l'autre, tu tapes ton Prodigal Sorcerer, il descend d'un point de vie. Mais sinon, là, il y a plein de créatures. Là, il m'attaquait, je bloquais avec mon Mishra Factory. Ça 3-3, mettons, ça 4-4. Là, j'y faisais 3 de dégâts avec mon Mishra Factory à sa créature, puis je l'achevais avec mon Prodigal Sorcerer. Je jouais des... T'as plein de façons de jouer autour de cette carte-là. C'est tout le temps une menace sur la table. Les decks aggro, là, ils me craignaient. Vous irez voir une de mes vidéos. Le gars, il joue des Seven Alliance, des Order of Labor, mais aussitôt que j'ai un seul Prodigal Sorcerer sur le battlefield, j'ai même pas besoin de le taper. Là. Juste le fait qu'il est là, ça me garde en respect parce qu'il sait que ça va tuer des créatures. Puis à la fin de son tour, paf, je fais un meurtre d'une créature. Ça arrête plus, là, ça pleuve. Quand tu as deux Prodigal Sorcerer ensemble, tu peux envoyer plusieurs un dégât. Tu peux aussi jouer un Cormus Bell. Mettons qu'on a des decks noirs, là, tu mets un Cormus Bell dans ton sideboard. Ça change toutes les swamps en créatures 1-1. Puis là, tu as des Prodigal Sorcerer sur la terre. Boum, 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 boum. Tu vas détruire les lands. C'est juste trop le fun. Toi, Tommy, c'est Je pense que c'était ta carte préférée des années 90.
Ah,
t'as battu beaucoup de decks avec ça. Raconte-nous ton deck de
Vampire. C'est cette carte-là qui m'a fait tomber en amour avec le jeu. Moi, le premier deck que j'ai fait, en plus, c'était dans le temps de Ice Age. Puis il y a le Zuran Spellcaster qui a exactement le même pouvoir et le même casting cost. Fait que oui. Tu peux en avoir jusqu'à 8 dans ton deck. Et je me suis fait un deck qui existe encore de nos jours. Là, un deck de prog, on appelle ça comme ça. Puis là, ben, le but, c'est de mettre des enchantements comme charisme, 3 bleus, qui fait que la créature, quand elle fait du dommage à une autre créature, c'est toi qui en gagne le contrôle. J'ai aussi ça ici, hein, c'est du bon vieux, ça fait que tu l'untapes. Fait que ton un prog, il peut prendre le contrôle de deux créatures dans le même tour si jamais t'as mis charisme dessus. J'ai le Sigil of Machin qui fait qu'une créature qui reçoit du dommage elle retourne dans la main de son propriétaire pour s'en débarrasser. Curiosité pour pogner des piger des cartes, parce que tu fais du dommage avec ton prog à l'autre. On peut la rendre aussi Dead Touch avec la tête ici de Méduse qui donne Dead Touch à la créature équipée. Ce qui fait que ton prog, il peut tuer du monde avec un dommage et tu protèges ça avec les bonnes vieilles bottes qui coûtent 0 à équiper. Qui fait que tu sors tes bottes au deuxième tour, tu sors ton prog au troisième, puis tout de suite, tu peux l'activer et ça devient jouissif très rapidement. Et puis, tiens, Chris, je vous en donne d'autres des cartes qui aident mon deck de prog. J'ai les Dream Tides. C'est un vieil enchantement qui fait que les monstres n'untapent plus à la fin dans les untaps du monde, sauf que tu peux peser deux colorless pour untaper. La gamique, c'est parce que j'ai beaucoup de ça ici. Des Q-Frix,
machin.
C'est ça, Prophet of Crucifix, qui fait que tu untapes toutes tes monstres pendant puis tes lands pendant toutes les untap phases de toutes les autres. Fait que là, tu peux
te faire. C'est méchant, ça, multiplayer.
Ah, ben oui, ben c'est ça. Nous, on joue beaucoup, plusieurs joueurs. Et j'ai ça ici, hein, une quest qui fait que c'est un petit peu la même affaire. Là. Tu tapes 4 monstres, puis là, tu te ramasses avec un autre untap, puis tu peux les cumuler. Hein, fait que ça, des fois ça m'est déjà arrivé de faire 16 de dommages avec 4 prog, genre dans le même untap. Puis là, ben, le gars, il voulait pas dire je finis mon tour, parce qu'après ça, je pouvais l'achever avant le début de l'autre, que moi, j'en tapais aussi. T'sais. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des affaires pour me protéger, puis pour aller plus vite, comme Propaganda, puis Factor Fiction. Et j'ai mis ça aussi, le laboratoire, hein, parce qu'il y a un petit peu de verre dans mon deck. Et ça me permet de caster n'importe quoi flash. Fait que, veux pas, c'est pratique quand que tu repognes tes landes à chaque tour. Et un petit peu de mana buff. Là. Ça, ici, c'est Sprouting Vine, c'est quelque chose que les gens sous-estiment. C'est un des meilleurs mana fetch que je connais. En instant, en plus, un instant qui te permet pour un vert, deux colorless et qui est storm. Fait que tu fais ça dans le tour de l'autre qui vient de faire un spell. Tu fais ça pour 3 mana, tu peux aller chercher 2 landes et ça va quand même assez rapide quand on joue à plusieurs. Avec des bons vieux signets, là, ça, j'aime bien ça, ces affaires-là. Donc, c'était mon deck de prog pour la carte de la semaine qui est encore une fois discuté, hein, les Prodigal Sorcerer, on en a parlé beaucoup à Magic.
C'est une bonne carte.
Ben oui, c'est ça. Moi, à l'époque, ce que tu sais, je commençais à Magic, on me montrait le jeu. Puis
t'as-tu dit la More Elf?
Ben, c'est ça. Tu peux jouer pendant le tour de l'autre. Tu sais, tu es l'autre chez eux, man. Moi, écoute.
T'as reçu les Royal Assassins, c'est tout.
Oui. Ouais. Puis dans le bloc Urza, il avait repris cette mécanique-là, mais de façon vraiment folle. Il l'avait fait sur 2 cartes, en fait. C'était devenu un enchant de créature qui donnait cette habilité-là de taper pour faire un dégât. Puis dans Urza Saga, il avait sorti le Horseshoe Crab, qui était un 1-3 que tu fais payer un bleu pour le détaper. Puis dans ce bloc de Urza-là, ben, il y avait les meilleurs counterspells que j'ai jamais eu. Il y avait Thwart, il y avait Rewind, il y avait... Oui. Tu jouais pas à l'incron, fait que toutes tes landes étaient toujours détapées. À la fin du tour, tu vidais tout ton mana bleu que tu avais sur la table pour faire un dégât à tout ce que tu voulais. Fait que tu mitraillais soit le player ou les créatures. Puis c'est ça. Puis tu faisais des counterspells qui détapaient tes landes, puis tu peux encore faire des... C'était vraiment déplaisant. C'était un des meilleurs decks, je pense, qu'il y a eu dans le bloc.
Si t'embrasses tes enfants avec cette bouche-là... Un palingron aussi. C'est la deuxième pire carte du jeu après. Ben, ça a tellement gâché de soirée, cette carte-là. Ben, je pense que ça nous amène au bout de la carte de la semaine. T'as-tu un commentaire,
Marc? Oui, ben, écoute, je pense qu'on est dans la conclusion.
Ben oui, tranquillement, pas vite. La conclusion du show aussi?
Ben oui.
Ah, je pense qu'on l'a fait. Le tour s'apprécie. Merci à Bone pour le beat de la semaine. Merci, Yanis, d'être passé nous voir. Je pense que la semaine prochaine, on va parler du tournoi qu'on a fait, qui a été organisé par Andy. J'ai très hâte au prochain, déjà. Merci, oui. Jason. Merci, Marc-Antoine.
Merci.
Et, ben, félicitations, hein, c'est quand même 1 900 $ qui a été remis à une œuvre caritative. C'est un beau geste. Félicitations à vous, les amis. Sinon, ben voilà, hein, c'était Terrain Basique. On remercie Martin au montage. On remercie aussi qui d'autre? Bone pour le beat. Je pense qu'on arrive au bout des remerciements. L'Abysse, ouais, tu, on peut les mettre là-dedans. Sinon, on a...
Patrick Burt pour avoir organisé le tournoi.
C'est une très charmante note là-dessus. Hein. C'est Boréal machin. Là. On l'a dit, tu le mettras dans la description. Tiens. Et ben, là-dessus, voilà, hein, je vous invite à aller voir sur Spotify pour les shows de Terrain Basique. Toutes les vieux, on est rendu à 118 tranquillement. Et ben, c'est ça. Je pense qu'il ne me reste plus qu'en temps de Tommy Godette vous souhaiter à tous et à toutes d'être le moins manascrew possible.
De la famille H2O Web Media.